Punchline sur Europe 1, Laurence Ferrari.
On se retrouve dans Punchline sur Europe 1 avec Émilie Zapalski, communicante politique, Jean-Philippe Derosier, constitutionnaliste, Louis de Ragnel du service politique d'Europe 1. On écoute juste Elisabeth Borne sur la notion de compromis, la façon dont elle va devoir parler à tous les groupes politiques.
Je m'engage à ne jamais rompre le fil du dialogue avec les groupes parlementaires, avec les forces vives, avec les Françaises et les Français. Je m'engage à bâtir des compromis ambitieux, sans compromission sur les valeurs, des solutions concrètes, des majorités de projets et d'idées. Les Français ont sonné l'heure de la responsabilité. Nous serons au rendez-vous. Nous avons toutes et tous une part à prendre. Nous avons tout pour réussir. Bâtir ensemble, nous y parviendrons.
Jean-Philippe Derosier, c'est le compromis sans compromission.
Des compromis sans compromission, voilà. Ça veut dire je suis prêt à négocier, mais sans me compromettre sur nos valeurs, c'est ce qu'elle dit. On entend, je négocierai avec des partis républicains et pas ceux qui sont à la marge de la République, selon la formule du président de la République, à savoir les extrêmes, l'extrême gauche et les filles, et l'extrême droite, bien sûr, le Rassemblement National.
Louis de Ragnel.
Elle n'a pas tellement d'autre choix que de dire ça. Et ce qui est intéressant, c'est quand on écoute ensuite les déclarations des présidents de groupe des oppositions. Et là, pour le coup, on comprend que ça va être extrêmement compromis et compliqué. Parce que tous, en fait, à peu près, disent pourquoi pas, on est prêt à tendre la main ou à saisir la main que vous tendez. Mais nous aussi, on reste fidèles à nos valeurs, à nos convictions. Et globalement, ce sont des valeurs et des convictions qui sont totalement aux antipodes de ce que défend le gouvernement. Et du coup, la question qu'on se pose quand même, c'est quelle va être la finalité de tout ça. Et moi, je ne vois pas, je suis très pessimiste sur l'avenir de la situation. Et ce n'est pas que pour la question du projet de loi pouvoir d'achat. C'est qu'en fait, on voit bien que ce sont des compromis qui sont quasiment impossibles, dans la mesure où chacun veut rester sur ses fondamentaux. Et donc, in fine, qu'est-ce qui va se passer? Je pense qu'on se dirige quand même tout droit vers une dissolution dans les prochains mois.
Alors, on écoute juste Marine Le Pen, je vous passe la parole ensuite. Elle estime que voilà, c'était de la provocation le maintien d'Elisabeth Borne à Matignon.
La situation gouvernementale n'est pas sous contrôle, mais comme dans tant d'autres domaines, hors contrôle. Les nominations invraisemblables se succèdent, sans tenir compte des élections, sans tenir compte de la volonté collective qui s'est exprimée, sans tenir compte du changement institutionnel qui est intervenu. Le pouvoir ne réfléchit plus, il tâtonne. Il ne décide plus, il improvise. Il n'agit plus, il titube. La seule certitude qui lui reste, c'est l'illusion de la puissance.
Émilie Zapalski, là, elle est dans son rôle, évidemment.
Oui, elle est dans son rôle. Mais c'est un positionnement un peu délicat, parce que depuis le début, là, avec 89 députés, ils veulent jouer, au niveau du Rassemblement National, la carte constructive, une opposition constructive, à l'inverse de l'ANUPS. D'ailleurs, ils arrivent en cravate alors que l'ANUPS arrive débraillé. Il y a un côté positionnement d'une opposition qui se veut responsable, raisonnable, qui va voter quand ça paraît bien, mais qui va présenter aussi ses propositions. Donc là, c'est compliqué à l'Assemblée d'être à la fois constructif et en même temps de marquer son opposition. Donc elle l'a fait, mais je trouve d'une manière qui était peut-être moins à droite que ce qu'elle a fait jusqu'à maintenant. Par contre, elle s'est pas du tout adressée à Elisabeth Borne, elle s'est adressée à Emmanuel Macron encore. Ça, c'est très en cohérence avec ce qu'elle fait depuis le début. Juste un peu au début, mais après, elle a parlé d'Emmanuel Macron, et c'est ce qu'elle fait depuis le début.
Elle explique quand même que sa nomination est une incongruité institutionnelle.
Oui, parce que ça ne prend pas en compte le vote des Français aux législatives, mais sinon, elle la contourne complètement. Elle va directement parler, et c'est depuis le début, depuis la campagne présidentielle qu'elle fait ça. Elle est aussi sur le pouvoir d'achat, elle continue en disant que ce gouvernement ne s'occupe pas des conditions de vie en fait des Français, donc elle reste très cohérente. Et puis dans cet accès donc constructif mais maladroit, parce que on voit bien que l'ANUPS a été beaucoup plus offensif, beaucoup plus agressif comme opposition, donc c'est pas le premier groupe, mais en tout cas c'est le plus offensif sur l'opposition au gouvernement.
Alors juste deuxième extrait, Mathilde Panot de la France Insoumise, on va l'écouter. Là elle s'adresse directement à Elisabeth Borne.
Madame Borne, il faut le dire, vous êtes une rescapée. Vous êtes la première ministre la moins bien élue de la Ve République. Vous avez maintenu un gouvernement à trous et à sursis. Trois de vos ministres ont été défaits aux législatives. La ministre des Outre-mer a tenu 36 jours avant de prendre la fuite. Que dire du ministre accusé de plusieurs viols, maintenu en poste jusqu'à lundi, ou de celle visée pour des viols gynécologiques, toujours en fonction à ce jour? Le camouflet électoral des législatives portera votre nom, mais vous voilà toujours là.
Jean-Philippe Derosier, D'abord, le mot rescapé interpelle quand on connaît l'histoire d'Elisabeth Borne. Voilà.
Absolument, c'est totalement déplacé, c'est une bêtise.
Son père était dans les camps de concentration.
Bien sûr, c'est au mieux une bêtise, une maladresse, au pire une provocation impardonnable.
D'accord.
Ça c'est un premier point. Après, ils sont dans l'une comme l'autre, hein, Panot et Le Pen sont dans leur rôle. Je les trouve quand même excessives. Donc elles sont dans leur rôle, puisque ce sont des extrêmes et elles sont dans les excès. Madame Le Pen dénonce Madame Borne à Matignon comme provocation. Elle voulait mettre qui ? Elle-même ? Alors qu'elle n'a que 89 députés et que Madame Borne peut s'en prévaloir de 250 ? Bon, certes, c'est une majorité relative, mais le groupe le plus nombreux, c'est quand même l'intergroupe Ensemble. Madame Panot dénonce que les ministres battus sont sortis du gouvernement. Bah, encore heureux. Que Madame Braun-Pivet est sortie du gouvernement. Bah, encore heureux, puisqu'elle est présidente de l'Assemblée nationale. Et elle pourrait reconnaître qu'effectivement, c'est quand même une avancée pour la féminisation de la vie politique qu'il y ait une première femme élue présidente de l'Assemblée nationale. Donc, là où il y a peut-être une erreur, c'est celle d'Emmanuel Macron. Au lendemain de l'élection présidentielle, où il n'aurait peut-être pas dû tout de suite nommer un nouveau Premier ministre et reconduire Jean Castex, puisque lui-même était réélu pour faire la campagne des législatives et tenir enfin, tirer les leçons de ces élections législatives. Mais à partir du moment où il a fait ce choix-là, bon, il l'a ajusté avec ce remaniement, il a tenté de s'ouvrir, il n'y est visiblement pas parvenu, ou peut-être qu'il a fait en sorte de ne pas y parvenir, pour peut-être anticiper une dissolution prochaine et faire qu'il y ait un blocage à l'Assemblée, ça, on n'en sait rien. Mais effectivement, l'une comme l'autre, je les trouve un petit peu dans l'excès.
Alors, je vais vous faire écouter Olivier Marleix, puis on prendra tous la parole. Les Républicains, là, ni compromission avec le gouvernement, ni blocage stérile.
Notre responsabilité est claire. Ni compromission, ni petits arrangements. Avec un président de la République dont nous contestons les orientations chancelantes depuis 2017, sur la dette, sur l'énergie, sur la souveraineté agricole et industrielle, sur la sécurité, sur l'immigration, sur la transition écologique. Mais jamais de blocage stérile. Nous n'avons pas l'intention de tout paralyser alors que notre pays a déjà pris 30 ans de retard, faute d'une vision claire et d'une action résolue.
Louis Dragnel, les LR, sur une ligne assez claire. Pas de compromission,
assez claire, mais plus ouverte que ce qu'on aurait pu imaginer compte tenu des déclarations passées d'Olivier Marleix. Après, la ligne de crête est quand même assez sensible. On voit bien, en fait, clairement que sur les questions de retraite, les questions économiques, donc toute la partie libérale qui concerne les Républicains, il n'y aura sans doute pas de problème. En revanche, sur les questions de sécurité, d'immigration et de justice, là, les Républicains seront extrêmement exigeants, mais comme ils l'étaient par le passé, lors du précédent quinquennat. Et on voit bien que les Républicains exigent, en fait, en contrepartie éventuelle de leur vote, que sur les questions de sécurité, ce soit beaucoup plus ferme, qu'en matière d'immigration, les expulsions se fassent réellement, qu'il y ait des reconduites aux frontières, qu'il y ait un discours beaucoup plus dur à l'égard des pays qui volontairement font venir des migrants en masse sur notre territoire. Donc voilà, en fait, ce qu'explique Olivier Marleix, sur l'économie, il n'y aura pas de problème sans doute, sur les questions de société, de sécurité, les questions régaliennes à proprement parler, là, ça va être beaucoup plus compliqué, ou en tout cas, les Républicains attendent de voir ce que propose Elisabeth Borne. Parce que quand on écoutait quand même le discours d'Elisabeth Borne sur les questions de sécurité et d'immigration,
Elle en a parlé,
mais de quoi n'a-t-elle pas parlé ? C'était un peu une paella.
Catalogue de tout.
Il n'y a pas eu beaucoup de sujets.
Elle n'a pas parlé d'immigration.
Et si, elle a parlé d'immigration, de contrôle aux frontières, absolument. D'accord. Elle a parlé même de l'amélioration des reconductions, des éloignements. Ce que je veux dire par là, c'est que le discours, pour le coup, d'Elisabeth Borne ressemblait à tous ceux qu'on a déjà entendus dans la bouche de Gérald Darmanin, d'Emmanuel Macron, en matière d'immigration, avec un résultat qui est quasiment égal à zéro. Donc, ce que voulait dire Olivier Marleix, c'est que si ça continue comme ça sur ces questions-là, eh bien, les Républicains ne soutiendront pas le gouvernement.
Oui, ils ont une attitude un peu capricieuse, puisque comme ils ont regagné un petit peu de galon avec beaucoup plus de députés que ce qu'on attendait après les 4% de la présidentielle, ils disent en même temps, vous pouvez compter sur nous, mais on pose nos conditions. Donc, on sent bien qu'il y a une espèce de bras de fer qu'on n'attendait pas, finalement. On pensait que les Républicains allaient s'allier beaucoup plus vite avec les macronistes, finalement. Je ne sais plus comment les appeler, hein, parce que Renaissance, la REM...
C'est
compliqué, ça change de nom et même ils font changer de nom les institutions, Pôle emploi, France Travail, etc. Mais juste, moi j'ai l'impression que se dessine quand même dans cette assemblée une espèce de clivage qui revient finalement, mais sous une forme un peu différente. C'est ce fameux clivage gauche-droite qu'on disait un petit peu perdu, finalement il revient, mais un petit peu déformé, c'est-à-dire c'est une gauche un petit peu plus radicalisée parce qu'elle est emmenée par LFI. Mais finalement, cette union, elle tient bon, parce que même si vous disiez, en effet, les propos de Mathilde Panot sont assez forts, hein, vont assez loin, mais ils sont soutenus, alors pas dans l'expression même, mais ils sont soutenus par les autres membres de l'ANUPS, y compris le PS, qui est beaucoup plus nuancé. Ouais. Donc ils restent unis. Donc il y a cette espèce de gauche...
mettre le joug par Mélenchon.
Oui, hein, il y a cette espèce de gauche radicalisée, et puis il y a cette espèce de droite, parce que moi j'ai l'impression que le « en même temps », il est beaucoup plus à droite, voire aller jusqu'à des votes tacitement accepté du Rassemblement National, donc droite et extrême droite. On sent que cette Assemblée, elle reprend cette espèce de clivage qui était perdu depuis qu'Emmanuel Macron avait décidé finalement de la fin de cette opposition gauche-droite.
Vous êtes d'accord avec cette analyse, M. de Rosier ?
Oui, relativement. Maintenant, il faut voir comment est-ce que ça marche sur la durée.
C'est le début de l'Assemblée.
Sur effectivement, l'intergroupe NUPES, notamment avec cette démarche de motion de censure, qui est un petit peu une bêtise politique, je pense, cette motion de censure qui était immédiatement déposée, parce que ça va conforter la légitimité d'Elisabeth Borne, qui effectivement ne peut pas demander la confiance, mais va dire « j'ai pas été censuré, donc ça veut dire que je l'ai à contrario ». Donc pour l'instant, est soudée. La droitisation d'ensemble, oui, mais il y a quand même un certain nombre de têtes qui sont issues de la gauche, qui ont le cœur, et pas seulement qui ont le cœur et le portefeuille qui penche vers la gauche. Je ne sais pas si ça va vraiment tenir, d'où la possibilité d'une dissolution dans quelques mois ou dans quelques années. C'est une hypothèse. En revanche, juste pour terminer, il y a un personnage qu'on n'a pas entendu devant le Parlement, c'est Emmanuel Macron. Il s'était engagé en 2017 à revenir tous les ans par un discours devant le Congrès. Et là, au moment où le Parlement reprend sa force, il aurait été de bon sens, et même de bon sens institutionnel.
Oui, mais on aurait dit qu'il coupait l'herbe sous le pied de sa première ministre, franchement.
C'est ce qui s'est passé il y a 5 ans avec Édouard Philippe, mais au contraire, il serait venu, il aurait réuni tout le Parlement pour reconnaître la force du Parlement. En congrès, bien sûr. Pour reconnaître la force du Parlement, pour reconnaître le résultat des élections législatives, pour donner un axe. On sait que le chef politique de la nation, c'est Emmanuel Macron.
Mais les Français ont dit qu'ils en avaient marre,
rien de le discuter.
Et ensuite, à
Elisabeth Borne, qui est la techno de service, tout le monde le sait aussi, de mettre en œuvre et de dérouler la feuille de route.
De mettre en musique tout cela, merci beaucoup.
Merci.
Mais c'est vrai que c'est un peu court, mais il y a le Tour de France qui nous attend, Émilie Zapalski, merci beaucoup Jean-Philippe de Rosier, Louis de Ragnel. Un petit merci punchline, et puis tout de suite, le Club Tour, c'est le Tour de France, comme tous les soirs, en direct sur Europe 1 avec Axel May et ses invités. Bonne soirée sur notre antenne sur Europe 1.